Donc, le père Joseph, curé de paroisse, curé de Duisel, Duisel la Jolie, comme il l'appelait, le village ou la petite ville s'appelle Duisel, mais c'est Duisel la Jolie. Je vous avais déjà dit que il faut pas imaginer une ville de 15, 20, 30 000 habitants, hein, c'est un gros village d'environ un millier d'habitants, donc c'est petit. Il a là 4 ou 5 clochers et il fait son travail de prêtre. Et je le disais déjà, mais je le rappelle, il est surtout attentif aux gens qu'on ne voit pas. Donc les gens qui viennent pas le dimanche à la messe, les gens qui travaillent dur, les gens qui sont un peu exclus des autres. Et dans cette paroisse rurale, donc dans cette paroisse de la campagne, il se fait proche surtout des travailleurs journaliers, des travailleurs agricoles, donc des gens qui travaillent la terre, mais qui sont parmi les plus pauvres des travailleurs de la terre. Hein, c'est des gens qui se louent à la journée, c'est-à-dire que voilà, il y a du travail à faire pour 2-3 jours, on fait ça, et puis ensuite on passe de ferme en ferme. Donc on appelle des travailleurs journaliers ou des travailleurs agricoles. Père Joseph se fait proche d'eux, il se fait aussi proche des gens qui passent, c'est-à-dire des gens qui font la route, qui sont vraisemblablement sans domicile très fixe, et qui ont entendu dire que le curé de Duisel, au fond, il suffisait de taper à sa porte et il vous accueillait, et vous aviez une soupe chaude et peut-être un lit, et qu'en tout cas, vous seriez le bienvenu. Évidemment, le comportement du curé étonne un peu les paroissiens. Ils se disent, mais c'est bien, notre curé Joseph, mais il s'occupe des autres, il s'occupe pas de nous, quoi. Et ça fait que les gens se plaignent auprès de l'évêque, et que l'évêque, donc je reviens un peu à ce que je disais la dernière fois, et l'évêque l'envoie à Noisy-le-Grand, parce que il a fallu qu'il y ait un aumônier dans ce camp qui avait été créé par l'abbé Pierre. Ça avait été créé par l'abbé Pierre pour que ça dure 6, 8, 10 mois, peut-être une année, mais pour que ce soit vite, après que des logements seraient construits, que toutes ces familles entassées là dans des tentes puissent être relogées. En fait, au bout de 6, 8, 10 mois, s'est aperçu que ça durait, donc les tentes ont été enlevées et on les a remplacées par des abris en fibrociment. C'est ce qu'on voit sur les chantiers encore aujourd'hui, et donc qu'on a appelé des igloos à cause de leur forme arrondie, mais c'est pas du tout la forme en fait d'un igloo, hein, tel qu'on le voit sur les images dans lesquelles sont les Inuits, les habitants dans l'Antarctique, mais c'est des abris longs, hein, qui font environ 8 mètres de long sur 4 mètres de large, et où là s'entassent des familles. L'été, il y a une famille, les parents et puis 3, 4, 5 ou 6 enfants, et puis l'hiver, il arrive bien souvent qu'il y ait en plus 1, 2 ou 3 personnes hébergées, soit de la famille, soit des gens de passage, et donc ça fait qu'il y a là 252 igloos, 252 abris en fibrociment, donc au moins 252 familles, et sans doute quand les jours sont mauvais, à partir de l'automne, l'hiver, eh bien, il y a 300-350 familles qui s'entassent là dans ce camp. Ce camp, c'est évidemment très difficile à vivre, parce que pour ces 252 igloos, abris, il n'y a que une fontaine. D'autres disent qu'il y en avait 3. même s'il y avait trois fontaines, eh bien, ça fait trois fontaines pour 252 familles. 252 familles, ça fait quand même des centaines de personnes. Évidemment, il n'y a pas l'eau courante, hein, donc il faut aller chercher l'eau au fur et à mesure qu'on en a besoin. Il n'y a pas l'électricité. On n'y apporte pas le courrier. Au début, et quand le Père Joseph y arrive, on n'y ramasse pas les ordures. Plus exactement, rien ne passe dans ce camp pour ramasser les ordures. Il faut transporter les ordures à l'extérieur du camp si on veut qu'elles soient ramassées. Or, évidemment, les gens qui sont atteints par le découragement, le désespoir, la vie difficile, la violence, ce qui atteint les gens quand la misère est trop grande, et bien les gens n'ont plus le courage d'aller porter dehors les ordures, et donc les ordures aussi s'amoncellent. Quand le Père Joseph entre dans ce camp, on y reviendra tout à l'heure en regardant le texte que vous avez là devant les yeux, mais quand il entre dans ce camp le 14 juillet 1956, quand il s'y installe définitivement le 11 novembre 1956, c'est une population qui est extrêmement pauvre, démunie et qui n'a aucun moyen de s'en sortir. Absolument aucun moyen de s'en sortir. C'est à l'extérieur de la ville de Noisy, dans une ancienne décharge. Et là, eh bien, il n'y a rien. Il faut vraiment vouloir aller au camp du Château de France, puisque c'était le nom, le lieu dit, hein, le nom qu'on avait donné à cet endroit-là, c'était Château de France, donc le hameau du Château de France. Il fallait vraiment vouloir y aller pour le voir, parce que c'était une voie sans issue. Et d'ailleurs, quelques centaines de mètres avant le camp, la route n'est plus goudronnée, mais c'est une route en terre. Et le Père Joseph racontait que les enfants, lorsqu'ils allaient à l'école, se faisaient moquer parce qu'ils avaient les chaussures toutes boueuses l'hiver quand il pleuvait. Enfin, et puis pas seulement l'hiver, mais dès qu'il pleuvait, parce qu'il y avait quelques centaines de mètres à parcourir dans un chemin plein de boue, puisque c'était des chemins de terre. Donc il faut imaginer ce camp un peu en dehors de toute vie, évidemment mal vu des voisins, enfin de ceux qui habitaient pas loin, et puis les gens eux-mêmes sont mal vus quand ils sortent. Père Joseph raconte aussi que, et puis d'anciens témoins, enfin des gens qui ont vécu dans le camp, racontent que ils avaient l'habitude d'avoir une paire de chaussures dans un sac, et quand ils arrivaient près de l'arrêt d'autobus ou bien à l'endroit où ils pouvaient faire quelques courses, alors ils changeaient de chaussures, parce que à cause de la boue sur les chaussures et de la saleté de l'endroit où ils venaient. Autrement dit, on peut dire que ce camp, c'est la saleté. Voilà, c'est un camp qui est sale, et du coup, les gens qui sont dedans sont sales, et lorsque le Père Joseph entre, ce sont ces gens-là qu'il voit. Si nous avions été avec le Père Joseph, qui à l'époque a juste 40 ans, hein, il est né en février 17, on est là en 56, donc il n'a pas tout à fait 40 ans, il a 39 ans et demi. Si nous avions été à côté du Père Joseph le 14 juillet 1956, eh bien nous aurions vu exactement ce qu'il voyait, c'est-à-dire des enfants, des femmes, des hommes, des abris en fibrociment, les chemins, les petites rues entre les igloos, parce qu'il y avait, c'était tous les igloos étaient ordonnés, c'est-à-dire que c'était en ligne. Hein, vu d'avion, ça fait des lignes très bien espacées. Et c'est pas du tout comme un bidonville où tout s'enchevêtre dans n'importe quel ordre. Là, non, c'est tout mis en ligne. C'est-à-dire, c'est parce que c'est construit par des hommes, par des femmes. Dit toc, 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 toc toc, on met tout en ligne. Assez rapidement, les gens construisent un petit abri en bois à côté pour y mettre quelques outils, faire l'abri pour le chien, mettre quelques affaires, augmenter la surface de l'igloo. Et lorsque donc, si nous étions rentrés avec le Père Joseph, nous aurions vu tout ça. Le Père Joseph, il voit la même chose que si nous avions vu, mais il voit autre chose. Il se contente pas de voir des gamins qui pleurent, qui se battent ou qui ne font rien, des femmes qui vont chercher de l'eau, des hommes qui rentrent du travail qu'ils ont trouvé. Il voit autre chose, il voit un peuple. Il voit pas ce monsieur, ce petit gamin, cette dame, cette jeune fille, il voit un peuple. D'emblée, tout de suite, il dit d'ailleurs, dans le texte que peut-être je vous ai lu la dernière fois, je ne me rappelle plus, « D'emblée, j'ai su que c'était mon peuple. » Donc, un peuple, c'est-à-dire quelque chose de collectif. Si nous avions vu, nous avions été avec le Père Joseph, nous aurions vu ce petit garçon qui avait l'air intelligent, qui était en train de jouer aux billes, et on serait approché de lui, et on leur aurait dit « Mais tu vas à l'école ?» Oui, oui, je vais à l'école. Et tu sais lire? Oui, je sais lire. Ah ben, si tu veux, je peux t'aider à lire encore mieux. Ou bien, cette dame, on lui a dit, vous n'avez pas besoin d'aide. Si vous voulez, je peux vous aider à faire la vaisselle, à faire la lessive. Nous nous serions attachés à monsieur un tel, madame un tel, ou le petit gamin un tel, parce que c'est normal. Quand on rencontre des gens, on ne peut pas rencontrer d'emblée des centaines de personnes. S'il y avait 252 familles et sans doute beaucoup plus, on ne peut pas s'attacher comme ça tout d'un coup. Le Père Joseph, lui, y voit aussi cette petite gamine, ce monsieur ou cette dame. Mais d'emblée, il dit, mais ces gens-là, ils sont rassemblés comme on est rassemblés dans un village. Je vais vous lire le texte où il dit ça. Il le dit mieux que moi. Voilà comment il dit ça. Devant autrefois, les sources d'eau, les croisements de route, un clocher, une industrie réunissaient les hommes. C'est donc le village. Il y a une source d'eau, une église, un petit commerce, une industrie, quelques maisons. Et tout de suite, voilà, un petit village, puis qui devient une petite ville, les gens sont réunis. Ici, les familles sont rassemblées par la misère. Autrement dit, il fait la comparaison entre eux. Qu'est-ce qui rassemble les hommes et les femmes entre eux et les enfants? Ben, c'est le travail. Il y a un travail, un commerce, une industrie. Il y a quelques ouvriers, quelques employés qui viennent, on construit quelques maisons. Il y a là quelques dizaines de familles, on construit une église, il y a un petit commerce, et puis finalement, vous avez là quelques dizaines, quelques cinquantaines, quelques centaines de familles, ça fait un gros village, une petite ville, les hommes et les femmes et les enfants sont rassemblés par le travail, et puis par la religion, voilà, ils sont rassemblés, comme dit là le Père Joseph, autrefois, les sources d'eau, les croisements de route, un clocher, une industrie réunissaient les hommes. Et il dit, mais moi je suis ici, à Noisy, j'entre pour la première fois le 14 juillet 1956, et ce qui réunit les hommes, les femmes et les enfants, c'est la misère. Donc il faut voir le parallèle que fait le Père Joseph, hein, des gens qui sont réunis par le travail, pas forcément des gens riches, des gens ordinaires, des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, mais qui sont réunis par autre chose, par le travail, par la vie familiale. Et là, il ne dit pas qu'ils sont réunis par la vie familiale ou le travail, et pourtant, beaucoup des hommes présents dans ce camp travaillent, des petits travaux qui ne payent pas beaucoup, mais travaillent. À l'époque, il y a plus de travail qu'il n'y a aujourd'hui, donc les hommes travaillent, ils ramènent un peu d'argent à la maison, mais le Père Joseph voit tout de suite que ce qui les rassemble, c'est la misère. Et donc, il en conclut, c'était comme une inspiration. Une inspiration, c'est-à-dire tout d'un coup ça lui vient sans qu'il ait à réfléchir. C'était comme une inspiration. Je savais ne plus être en face d'une situation banale de pauvreté, je savais ne plus être en face d'une situation de difficulté personnelle. C'est plus monsieur un tel qui manque de travail, madame un tel qui boite parce qu'elle a dû avoir un accident, le petit gamin là qui est malade, qui a mal à la tête et qui pleure, hein, des difficultés personnelles. J'avais affaire à une misère collective. Et ça change tout. Parce que si c'est monsieur Cyprio qui a des difficultés, ben, je vais essayer de lui venir en aide. Je vais dire, monsieur, vous avez besoin de quoi? Ben, j'ai un travail. Bon, ben, écoutez, on va se décarcasser, puis on va essayer de trouver un travail. On va peut-être avoir du mal, mais on va se décarcasser. Et ça, c'est des situations individuelles. Donc, on va rendre service à monsieur Cyprio, puis il y en a 25 autres à qui on rendra pas service. Mais on peut pas tout faire dans ce bas monde. Je veux dire, c'est chacun de nous, on peut pas sauver des milliers, des millions et des milliards de personnes dans le monde qui souffrent de misère. On fait ce qu'on peut. Ce sont des situations individuelles. Et puis d'emblée, le Père Joseph, il a cette intuition, c'est pas des situations individuelles, c'est une situation collective. Ce sont des gens qui sont rassemblés par la misère et qui donc sont un peuple. Un peuple, qu'est-ce que c'est qu'un peuple? Un peuple, ce sont des gens qui sont rassemblés par un sentiment commun. Qu'est-ce que c'est que le peuple français? Le peuple français, c'est des gens qui disent, ben, on habite la France, mon père était français, ma mère aussi, et si je suis dans la situation où je viens d'arriver d'un pays étranger, je dis, je suis français, parce qu'est-ce que c'est que la France? C'est un pays qui m'a accueilli, et où je dis, ben, c'est devenu mon pays. Et à ce moment-là, je fais partie du peuple de France. Et donc, ce qui caractérise, ce qui différencie le peuple d'Allemagne ou le peuple d'Italie du peuple de France, c'est qu'il y en a qui disent, moi, je suis de France, que mes origines soient étrangères ou soient françaises, et puis les autres disent, ben, moi, je suis d'Italie. Moi, je suis d'Allemagne. Et là, le Père Joseph dit, mais eux, ils peuvent dire, je suis de la misère. Je suis de la misère. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est important de prendre tout d'un coup conscience, comme dit le Père Joseph, ce fut une inspiration. Il dit même d'emblée, tout d'un coup. Ça vient comme ça, comme si ça lui tombe sur la tête. Pourquoi c'est important, cette prise de conscience qu'il s'agit d'une misère collective? C'est parce que alors, les solutions à trouver ne sont pas les mêmes. Pour une situation individuelle, si c'est lui ou elle que je dois aider, je vais essayer de lui trouver un travail ou lui acheter un litre de lait pour que le bébé ait à boire le lendemain. Si c'est une misère collective, c'est plus un litre de lait que je vais chercher, éventuellement même que je vais donner à cette pauvre femme tous les matins. Pendant 2 ou 3 ans, je vais aider cette pauvre femme en achetant un litre de lait pour elle, mais je vais faire en sorte que la loi change, qu'une société change, qu'une société se transforme pour que, aujourd'hui et demain, cette femme n'ait plus besoin de mendier un litre de lait. Et donc, c'est la méthode, les moyens pour aider les gens va être complètement différent. Je n'ai plus secourir quelqu'un en lui donnant le franc ou l'euro, le franc à l'époque, l'euro nécessaire pour qu'il achète sa baguette de pain, mais je vais faire en sorte que demain, tout homme et toute femme et tout enfant puissent manger à sa faim parce que l'État aura répondu à sa responsabilité qui est que le plus faible parmi ses membres puisse vivre. C'est ça la responsabilité de l'État. La responsabilité de l'État, c'est que le plus petit puisse vivre. Et alors, évidemment, on est témoin, hier comme aujourd'hui comme hier, que l'État n'arrive pas à faire ça, et c'est pourquoi il n'arrive pas à faire ça, parce que, bien que le voulant, il ne sait pas le faire, ou bien il pourrait peut-être le faire, mais il ne le veut pas. Ensuite, voilà, les choses sont complexes, et du coup, un certain nombre d'organisations font ce travail, essaient de le faire, et le danger, c'est justement d'en rester à des situations individuelles, parce que si j'aide cette petite dame qui a besoin d'un litre de lait tous les matins, si je continue à lui donner un litre de lait pendant 2 ans, je vais continuer pendant 10 ans, et ses petits-enfants continueront à mendier un litre de lait, parce qu'il n'y aura pas de solution collective. Si je travaille à ce qu'il y ait une solution collective, alors peut-être travaillerons-nous ensemble pour que cette femme puisse trouver un travail qui va lui permettre d'acheter un litre de lait pour donner à manger à son bébé ou à son enfant. Et son fils et son petit-fils auront du travail pour donner eux-mêmes à manger leurs enfants. Donc c'est la méthode qui change et la sorte de révolution qu'apporte le Père Joseph, c'est d'abord ça. C'est plus Monsieur Cypriot, Madame Gaillande, telle ou telle personne très précise qui a besoin, qui est dans la souffrance et la misère. C'est une masse de gens, mais beaucoup, beaucoup de gens. Ça explique que très très vite, mais très très vite, dans les 2-3 premières années où il est à Noisy-le-Grand, le Père Joseph s'absente du camp et il va voir ailleurs s'il y a aussi de la misère ailleurs. Il va vérifier si son intuition est une imagination ou si c'est vrai. Il va voir si c'est pareil, s'il y a aussi des lieux où les gens sont rassemblés par la misère. Aujourd'hui, dans le monde, on connaît ça par la télévision ou les reportages ou bien ce qu'on a entendu dire, il y a des tas d'endroits où les gens sont rassemblés par la misère. Ce sont les bidonvilles, où ce sont les quartiers très très difficiles, où les gens se rassemblent par la misère. C'est au point que, un jour, dans un rapport, qu'on appelle le rapport Rocard, parce que c'est le ministre du plan de l'époque qui avait demandé au Père Joseph de faire un rapport, et ce ministre s'appelait Michel Rocard. Et donc Michel Rocard avait demandé au Père Joseph... Bonjour Claudine, vas-y, entre, on a commencé, mais tu es la bienvenue. Alors attends, je te passe le papier parce qu'on va travailler à partir de ce papier. Donc je continue, mais ne t'inquiète pas, tu comprendras tout au fur et à mesure. Donc le rapport Rocard, Michel Rocard demande au Père Joseph de faire un rapport sur la grande pauvreté. Donc le Père Joseph fait ce rapport et à un moment du rapport, il dit, il a cette phrase, le quart monde, j'expliquerai tout à l'heure le mot quart monde parce qu'il vient dans le texte que nous allons lire. Le quart monde, c'est la... Comment il dit ça exactement ? C'est le... Non, c'est... Ah, j'ai plus le mot, je l'avais à l'instant et je l'ai plus, je l'ai au bout de la langue. C'est comme l'abri, comme la terre où viennent, non pas la terre natale, mais la terre où viennent se réfugier les pauvres du monde. C'est-à-dire que, au fond, ce sont des... La seule manière d'être... Si on est dans le malheur, on ne peut pas être bien chez les riches, mais on peut être bien chez les pauvres. Je vais vous donner un exemple. Une fois, j'étais à la gare de Lyon, c'était dans les années entre 2000 et 2010. J'étais à la gare de Lyon et j'allais voir régulièrement à la gare de Lyon des gens qui vivent dans la rue. Et là, j'étais avec un petit groupe d'hommes, 7 ou 8 hommes que je connaissais bien. Et puis, je vois arriver un monsieur avec un petit cartable, une veste, une cravate. Il s'avance vers le groupe, je lui dis bonjour, et je croyais que c'était quelqu'un qui venait dire bonjour à des gens qui vivent dans la rue, que c'était un passant, un voyageur, c'était gare de Lyon. Je lui dis bonjour, et puis voilà. Et puis une semaine plus tard, je reviens voir ce même groupe d'hommes, et puis là, je revois le monsieur. Mais je ne le revois plus du tout avec son cartable. Je revois avec la même veste, mais il n'a plus de cravate, sa chemise est sale. En fait, j'apprends, je lui demande, mais monsieur, qu'est-ce qui vous est arrivé? Je parle un peu avec lui, et j'apprends qu'il habitait Perpignan, et que tout d'un coup, un jour, sa femme le met dehors, il se retrouve dans la rue, Et pour quelle raison ? Sans doute qu'il était mal dans sa peau, qu'il avait de grandes difficultés à l'intérieur de lui-même. Il prend le train à Perpignan, il arrive gare de Lyon, et la première chose qu'il fait, il va se réfugier auprès de gens qui vivent dans la rue. Et il y est resté. Et le drame, c'est que il est tombé de plus en plus, et au bout de quelques mois, il ne ressemblait plus du tout au monsieur que j'avais vu le premier jour. Il est devenu quelqu'un qui était sans domicile. Voilà. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire comme une terre d'asile. Voilà. Le père Joseph dit, le Quart-Monde, c'est la terre d'asile du malheur du monde. C'est-à-dire, c'est ce lieu où n'importe qui peut aller, on ne va pas te demander d'où vient ta misère. Les gens se reconnaissent, ils savent bien que le malheur, c'est le malheur. Tu as peut-être ça de malheur et un autre à ça, mais on ne compare pas le malheur. Le malheur, voilà, quand on l'a traversé, on sait ce que c'est, et on ne va pas demander si tu as manqué de 10 francs ou de 100 francs. On sait simplement que tu as manqué, et ça suffit. Et le Père Joseph, il a conscience de ça, tout d'un coup. Cette misère collective qui va appeler, qui va exiger des réponses collectives. Et du coup, ça veut dire que dès que le Père Joseph entre à Noisy, mais sans doute cela l'habitait déjà avant, mais nous n'en avons aucune certitude, il n'en a pas parlé, mais il montre en arrivant à Noisy qu'il a d'emblée, tout de suite, la dimension politique. Pas la dimension politique au sens des partis politiques, tel ou tel parti, mais la dimension de la gestion d'une société, la gestion d'un ensemble, d'une collectivité, d'un collectif. Au fond, le politique, il s'occupe de quoi ? Il ne s'occupe pas de Jean-Claude ou de Marie-Vonne Caillot, ou de Josette ou de Bernard ou de Claudine. Il s'occupe de l'ensemble d'un peuple pour faire en sorte que tout le monde vive bien, à commencer par celui qui peut le moins et qui a le moins, par le plus pauvre, à commencer par le plus pauvre. Alors, malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. Mais le politique, la fonction du politique, le rôle du politique, c'est de faire en sorte que nous tous, rassemblés dans ce pays, dans cette ville, dans ce pays, en Europe, dans le monde, nous vivions bien, correctement, heureux, à commencer par celui qui a le moins. Donc on lui donne la priorité. Et d'emblée, le Père Joseph a cette intuition-là, qui est une intuition politique, mais au sens, non pas des partis, hein, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire s'occuper de l'ensemble des personnes qui habitent un pays, plus largement de l'ensemble de l'humanité. Il dit juste après, c'est toujours le même texte, « D'emblée, j'ai senti que je me trouvais devant mon peuple. Cela ne s'explique pas, ce fut ainsi. » C'est ça l'inspiration. Ça ne s'explique pas, c'est comme ça. Ça ne s'explique pas, c'est comme ça. Ah oui, mais pourquoi vous avez pensé ça, Père Joseph, le 14 juillet 1956 ? J'en sais rien. J'ai pensé ça. Ben, expliquez-moi. Mais j'ai rien à expliquer. J'ai pensé ça. Et j'ai pensé quoi ? J'ai pensé que la misère n'était pas individuelle, qu'elle était collective. Donc il ne fallait pas faire des réponses individuelles, mais des réponses collectives. Ça explique pourquoi le Père Joseph, très rapidement dans ce camp, il se fait mal voir des gens. Il se fait mal voir pourquoi ? Et parce qu'il refuse les réponses individuelles. Alors, il y avait une association qui distribuait de la soupe le soir. Le Père Joseph disait, mais pas possible, pas donner de la soupe aux gens. Alors, il barrait le chemin. Et les femmes arrivaient avec une gamelle pour aller chercher la soupe. Et alors, pour pouvoir avoir la soupe, les femmes disaient, oui, mais c'est pour le chien. Ah, si c'est pour le chien, disait le Père Joseph, allez chercher la soupe. Mais il manifestait comme ça, le Père Joseph, que il fallait que les gens prennent conscience que c'est pas comme ça qu'on s'en sortait. Bien sûr qu'on a besoin ce soir de la soupe pour que le mari et les enfants aient à manger. Mais le drame, si on me donne ce soir de la soupe, c'est que demain, on va encore devoir m'en donner. Et après-demain. Et dans 10 ans encore. Et c'est ce qu'on appelle la cistana. C'est-à-dire qu'on donne, on donne, on donne, mais finalement, on ne se sort pas de la misère pour autant. Et le Père Joseph, plusieurs fois, a eu des actes, des attitudes comme ça, qui ont choqué les gens, parce que les gens, ils avaient besoin de cette soupe. On en a vraiment besoin. Pourquoi ? Mais parce que les gamins, ils ont faim. S'il n'y a pas la soupe, ils n'ont rien à manger. Ou alors, une autre fois, où le Père Joseph, un 24 décembre, il y a des gens qui amènent dans un camion un monceau de jouets. Donc des dizaines et des dizaines de jouets, des camions, des poupées, des petites voitures, des jeux de construction. Et le Père Joseph n'en veut pas. Mais les femmes regardent le Père Joseph et disent, mais Père Joseph, demain c'est Noël. Moi, il faut que je donne quelque chose à mon petit gamin. Il faut que je donne quelque chose à ma gamine. Autrement, il aura rien. Et le Père Joseph dit, mais oui, si votre fille, madame, elle trouve une poupée sans tête dans le caniveau, elle a le droit de jouer avec. Mais vous comprenez bien que sa maman ne peut pas lui donner une poupée sans tête. Et il a même mis le feu au jouet. Évidemment, ça a scandalisé les gens. Mais après coup, des années plus tard, lorsqu'on interrogeait les gens en disant, mais finalement, qu'est-ce que vous avez appris dans ce camp ? Et qu'est-ce qu'il vous a appris le Père Joseph ? Et les gens disaient, il nous a rendu l'honneur. Il nous a rendu l'honneur. Oui, parce que c'est différent. En effet, on a besoin, c'est demain Noël. On imagine demain Noël, qu'est-ce que je donne à ma gamine ? J'ai rien. Ben, au moins, je vais prendre quelque chose là dans le tas de jouets, je vais sortir une poupée où il manque un bras, mais au moins, elle aura quelque chose. Elle aura quelque chose, oui, mais... Voilà, c'est quelque chose que sa mère aura donné, une poupée sans tête ou une poupée sans bras. Si la gamine, elle trouve ça, hein, on voit bien que les gamins, parfois, ils jouent avec des boîtes de conserve, ils jouent avec des cailloux, ils jouent avec n'importe quoi. C'est formidable. C'est différent si moi, son père, je lui offre une vieille boîte de conserve pour jouer. Et voilà un peu des réactions qui font que c'est pas la réponse individuelle, mais c'est une réponse collective. Il faut permettre à tout homme et à toute femme, à tout parent, de pouvoir offrir un petit jouet à ses enfants le jour de Noël, pas parce qu'on lui a donné un vieux camion, une vieille voiture ou une poupée sans tête, mais parce qu'il aura quelques sous pour acheter un petit jouet. Et ça a l'air de rien, mais ce sont des choses qui sont fondamentales parce que c'est ça la réponse à la misère collective. C'est une réponse de type politique. Alors, ça commence par ces petites choses, hein, et jouer. Mais ça va même beaucoup plus loin, puisque une fois, c'est une autre histoire que je vous raconte, une fois, le Père Joseph, le camp de Noisy, il est dans le camp de Noisy depuis plusieurs années, il y a déjà des gens qui viennent l'aider, qui s'occupent des enfants, il y a une sorte de petit jardin d'enfants, il y a un atelier pour les femmes, pour qu'elles puissent coudre, il y a une maison où elles peuvent laver le linge, il y a des machines à laver, toutes modernes, parce que, comprenez bien que dans ces igloos, il n'y a pas d'électricité, donc pas de machine à laver, il n'y a que 1 ou 3 points d'eau, donc il n'y a pas de lavoir ni rien, je veux dire, c'est même pas comme dans le village d'autrefois, il n'y a rien pour laver. Alors Joseph a fait installer dans des petites maisons qu'il a fait construire, et là où il y a l'électricité, des machines à laver pour que les femmes puissent venir faire la lessive. Et bon. Et un jour, voilà une jeune femme qui arrive dans le camp, elle cherche à voir le Père Joseph, et elle voit le Père Joseph, elle dit, écoutez, Père Joseph, voilà, j'ai entendu parler de vous, et j'aimerais bien vous aider. Père Joseph la regarde et lui dit, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Oh, mais c'est pas important, je voudrais vous aider, vous êtes avec les pauvres gens, j'aimerais aider les pauvres gens. Ben oui, mais moi, ce que je veux savoir, c'est ce que vous faites dans la vie. Non, non, vous savez, c'est pas... Ce que je fais dans la vie, ça peut pas servir aux gens. Ben non, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors finalement, toute penaude, elle dit, mais moi, je suis esthéticienne. Oh, Père Joseph dit, mais voilà, c'est ça que j'attendais, il faut ouvrir un salon de beauté. C'est-à-dire, c'est, ben oui, toute femme a le droit d'être belle, pourquoi pas vous allez me dire, oui, mais on ne se sort pas de la misère en étant beau. Qu'est-ce que vous en savez? Bien sûr que si, parce qu'on se sent mieux dans son corps, on se sent mieux respecté par les autres, on a meilleure apparence, on a moins honte de soi, on est plus fier de soi-même, on est content parce que nos gamins nous trouvent resplendissants. Enfin, c'est la vie ordinaire. On cherche pas à être la reine d'Angleterre. On sait simplement être bien dans son corps. Voilà. Et bon, ça a l'air de rien, mais là aussi, c'est une action de type politique. C'est-à-dire que avoir le droit d'être soi-même et d'aller aussi loin qu'il est possible dans sa propre humanité. J'ai le droit, moi, parce que je suis un homme, parce que je suis une femme, d'être bien dans mon corps. Et, mon Dieu, comment être bien dans son corps? Une esthéticienne, ça fera pas de mal, voilà. Va me faire que les mains soient plus lisses, que mes cheveux soient mieux, que mon visage... Enfin, je sais pas comment fonctionne l'esthéticienne, hein, mais voilà. Vous voyez, bon, ce sont des petits gestes...
Hein?
Oui, et aussi spirituel, parce qu'en effet, se trouver mieux dans son corps, c'est aussi se trouver mieux avec tout son être. Voilà. Donc il y a là quelque chose de très important et qui a une relation avec cette intuition du Père Joseph quand il entre à Noisy-le-Grand d'une dimension collective de la misère. Petite précision. Le Père Joseph dit, dans Les pauvres son Église, c'est le texte que je vous disais tout à l'heure, le 14 juillet 1956, j'ai compris que la misère était collective. Les choses sont pas si simples, évidemment. Père Joseph a pas compris en une seconde tout ce que je suis en train de vous dire. Ça a mis du temps, peut-être quelques mois. Il a fallu peu à peu qu'il s'imprègne des gens, qu'il apprenne à les connaître. Et il raconte d'ailleurs que il essaye de se souvenir le nom des enfants, le nom des femmes, des hommes. Peu à peu, il a pris connaissance des familles. Il s'est installé pendant quelques mois avec les compagnons d'Emmaüs qui habitaient à côté du camp et qui fabriquaient des parpaings, vous savez, pour construire les maisons. Et là, il a travaillé avec ces hommes pour pouvoir entrer dans le camp. Parce que, vous savez, un camp comme ça, vous y entrez. Pourquoi tu viens ? T'habites là ? Ah ben non, j'habite pas là, je viens voir. Tu viens voir quoi ? Même pas dans un camp où habitent de pauvres gens, comme on va aux eaux. Si on veut aller aux eaux, on va aux eaux. Il y en a un à Vincennes, on va aux eaux. Mais on va pas au camp de Noisy-le-Grand. Donc le Père Joseph, il a bien fallu qu'il trouve le moyen d'entrer en contact avec les familles qui habitaient là. Donc, il s'est engagé avec les compagnons d'Emmaüs pour fabriquer des parpaings, et ça lui a donné l'occasion de rencontrer les gens, de connaître les prénoms, les noms, le nom des enfants, voir que un tel va avec un tel, que s'il est dans tel igloo, et peu à peu de s'imprégner des gens. C'est important ça parce que c'est pas forcément en une seconde que le Père Joseph a vu ce qu'il allait faire jusqu'en 1988, la date de sa mort. Les choses se sont faites peu à peu. Je dirais même que ça s'est fait rencontre par rencontre. Le Père Joseph n'avait pas l'idée, en entrant au camp de Noisy-le-Grand, qu'il faudrait faire un salon de beauté. Mais voilà qu'il y a une esthéticienne qui vient. Ben, cette esthéticienne, c'est une chance pour les gens. Elle va faire un salon de beauté. On va pas lui demander de faire un atelier de mécanique pour réparer les mobilettes. Elle sait pas faire. Mais elle sait s'occuper de la beauté des femmes. Ben, on va lui demander de le faire, parce que elle peut être utile pour la libération des gens de la misère. Mais à partir de ce qu'elle est, et le Père Joseph a toujours agi de cette manière, c'est à partir de la rencontre avec tel homme ou telle femme. Et il disait souvent, chacun de ceux que je rencontre est une chance pour détruire la misère. Au fond, lui que je rencontre, c'est peut-être lui qui va détruire la misère. Alors, choses sont plus complexes, hein, mais ça veut dire que qui qu'on soit, par exemple cette esthéticienne, eh bien, elle peut détruire la misère. Comment ? Mais en étant elle-même, pas en apprenant le métier de mécanicien, non, elle est esthéticienne. Un autre exemple. Un jour, une femme d'une quarantaine d'années, peut-être un peu plus jeune, je ne sais pas exactement son âge, mais enfin de cet ordre-là, 35, 40 ans, elle entre au camp parce qu'elle a lu dans un magazine, je crois que c'est le magazine Elle, elle a lu un reportage sur le camp de Noisy-le-Grand. Que là, il y avait un curé, un père Joseph, avec un nom un peu bizarre, Vrezinski, qui était avec des gens qui étaient malheureux, et puis voilà, qu'il essayait de faire quelque chose. Elle a voulu se rendre compte de ce qui se passait. Alors elle y est allée. Cette dame, elle était diplomate. Elle était néerlandaise. Je dis elle était parce qu'elle est morte maintenant. Elle était néerlandaise des Pays-Bas, la Hollande. Et elle était diplomate à Paris, c'est-à-dire qu'elle représentait son pays à Paris. Elle n'était pas ambassadrice, hein, mais elle était diplomate à l'ambassade des Pays-Bas à Paris. Après avoir été un certain temps auparavant à Washington, aux États-Unis. Et elle cherche à voir le père Joseph, elle le rencontre, et elle dit, bon, ben, père Joseph, voilà, je vais parler un peu avec vous. Bon, ah ben, tenez, il la met dans une pièce, et il lui dit, tenez, il faut trier tous ses vêtements. Et du coup, Alvin DeVos van Zijnvijk, c'est son nom, qu'on fait appeler maintenant Alvin, c'est son prénom, son nom de famille, c'est De Vos van Zijnvijk, donc néerlandaise. Alvin, il la colle là avec un monceau de vêtements qu'elle a à trier. Paire de chaussettes, chemise d'homme, truc de femme, de gamin, de fillette, bon, des chaussures, deux paires de chaussures aillent ensemble. Bon. Puis, voilà, au bout d'un moment... quand elle a fini, père Joseph l'a oublié, quoi. Alors, se demande ce qui se passe. Finalement, le père Joseph arrive. Et là, il s'aperçoit que Alvin DeVos van Zijnvijk, elle est un peu effondrée parce qu'elle s'aperçoit, elle prend conscience de ce que les riches donnent aux pauvres. Des vieux vêtements, des chemises trouées, des pantalons sans boutons, des vestes sans boutons, des gilets sans boutons, des robes dont l'ourlet est défait, des choses immétables, parfois même sales, des chaussures trouées, enfin bref, des vieux vêtements, des vêtements qu'on met à la poubelle, et qu'on a déversés là, dans le camp. Et elle se dit, au fond, c'est des gens comme moi qui donnent ça. Elle prend tout d'un coup conscience... non pas de ce qu'est la misère, mais de ce que sont les riches, c'est-à-dire qui déversent ce dont ils n'ont plus besoin et qui ferait bien mieux de le mettre à la poubelle, aujourd'hui dans les déchetteries ou dans le tri écologique, hein, mais plutôt que de donner ça aux gens qui vont en faire quoi. Moi je vais habiller mon gamin avec un pantalon où il y a 3 trous dans les fesses, il va se faire moquer à l'école, donc pas possible. Alors, Père Joseph lui dit, bon, ben, écoutez, voilà, vous pouvez revenir. Alors, elle revient. De temps en temps, elle a son travail, hein, donc elle travaille, et puis elle revient de temps en temps. Et puis, au bout d'un moment, elle dit au Père Joseph, bon, ben, écoutez, maintenant, je pourrais peut-être vous aider davantage. Qu'est-ce que je peux faire? Et Père Joseph lui dit, ben, écoutez, faites des études. Faites des études. Ah, faites des études. Les gens ont faim, les gens pleurent de misère, de malheur. Alors que le père Joseph me demande de faire des études. Ben oui, parce qu'elle était capable de réfléchir, de chercher dans les livres, de comprendre ce que les savants, les politiques pensaient de la misère. Et du coup, elle pouvait le faire. Elle n'allait pas demander, il n'allait pas demander ça à l'esthéticienne, c'est pas son métier. Tandis qu'elle, elle avait la possibilité de faire ça. Donc, il lui demande de faire ça. Et puis, il lui demande aussi, d'ouvrir les portes des organisations internationales, style l'ONU, l'UNESCO. Donc, ces lieux où on réfléchit à l'avenir du monde, mais plus au niveau de tel village, ni même de tel pays, mais au niveau du monde. Pourquoi lui demander ça? Mais parce qu'elle pouvait. Elle avait la compétence. Donc, cette dame-là, où il aurait pu lui dire, « Bon, écoutez, qu'est-ce que vous venez faire ici on parlait tout à l'heure des talons hauts. On peut imaginer Alvin de Vos-Wassenbeck avec des talons. Je ne sais pas si elle portait des talons hauts, mais oui, on en parlait tout à l'heure, là, avant qu'on commence. Elle arrivait, mon Dieu, première fois qu'elle voyait ce monde de la misère, elle est un peu effrayée par ce qu'elle voit, un peu effrayée de voir ce que les riches donnent aux pauvres gens, et aurait pu lui dire, si vous trouvez un peu d'argent, on a besoin d'argent. Il aurait pu lui dire ça. Trouvez-moi un peu d'argent auprès de vos amis. Bon, elle aurait fait ça très bien. Non, il voit bien que cette femme, elle est intelligente, qu'elle a de la possibilité et qu'elle a surtout des connaissances, des gens qu'elle connaît. Elle peut, en parlant au secrétaire de l'ambassade, avoir l'adresse de telle personne qui connaît, qui est un peu un savant, un philosophe. Elle connaît l'ambassadeur peut lui indiquer telle personne à l'ONU qui va ouvrir une petite porte pour le quart monde. Et c'est avec Alvin de Vos-Wassenbeck qu'est né le mouvement international ATD Quart Monde. Le père Joseph qui a fondé le mouvement ATD Quart Monde, mais la dimension internationale, c'est Alvin de Vos qui a permis au mouvement ATD Quart Monde d'arriver jusqu'à l'ONU, à l'UNESCO. Et ça a été très vite, parce que très très vite, Alvin de Vos, elle s'est dit, il faut faire une réunion à l'UNESCO. L'UNESCO, c'est l'agence de l'ONU qui s'occupe de la culture. Il faut faire une réunion de l'UNESCO au camp de Noisy. Donc il y a des fonctionnaires de l'UNESCO qui ont l'habitude d'avoir de beaux bureaux, qui sont venus au camp de Noisy. Et là, dans des salles, près du camp de Noisy, ils ont fait un colloque sur la misère des familles.
Dans
le foyer, non? Oui, je ne sais pas exactement à quel endroit, mais en tout cas, voilà. Et sur la misère des familles. Et ça a été le premier colloque. Ça a été suivi d'un second colloque, une seconde réunion, alors là, à l'UNESCO. Et ça, dès les années 63-64, Père Joseph est rentré au camp de Noisy-le-Grand, en 56, ici installé le 11 novembre 1956. Voilà. Donc, je poursuis juste un tout petit peu, puis on étudiera le texte que vous avez devant les yeux la prochaine fois, parce que finalement, je suis parti sur une autre piste. Je vais vous expliquer juste, pour terminer, la création du mouvement. Bon, le Père Joseph... Il est là, il arrive, il ne connaît personne. Il a la sensibilité aiguisée, c'est-à-dire qu'il comprend bien la souffrance des gens, le malheur des gens, les larmes des gens, la tristesse des gens, le découragement des gens. Et en même temps, il comprend leur courage, leur espoir, leur espérance, la volonté de s'en sortir, la volonté qu'ont les parents, que leurs enfants aient une vie meilleure que la leur. Donc il est à la fois sensible au malheur et puis sensible au courage et à l'espérance. Et c'est bien joli tout ça, mais tout seul comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Il faut qu'on fasse une association. Alors, il en parle à des personnes dans le camp et finalement, il décide de faire une association. Donc, ils font un bureau, c'est-à-dire, voilà, quelqu'un qui est président, trésorier, secrétaire, voilà, 4-5 personnes. Et puis, cette association est refusée par les renseignements généraux parce que dans le bureau, eh bien, il y a des gens qui sont sortis de prison et qui n'ont pas le droit, en fait, notamment pas le droit de voter. Donc, c'est refusé par les renseignements généraux. Ça, c'est un coup dur pour le père Joseph parce qu'il dit, il faut des aides extérieures. Il faut des aides extérieures. Il faut que ce soit des gens de l'extérieur qui m'aident. Alors, voilà qu'un jour, une demoiselle qui s'appelle Mademoiselle Sumpt, S-U-M-P-T, Sumpt, je ne sais pas comment on prononce, peut-être autrement, mais en tout cas ça s'écrit comme ça, voilà que cette dame, elle arrive au camp et puis elle dit au père Joseph, mais comment je peux vous aider? Le père Joseph dit, eh bien, parlez à vos amis. Parlez à vos amis et puis faites-moi venir pour que je leur parle. C'est ce que fait Mademoiselle Sumpt. Elle en parle à une de ses amies, Madame de Brancion, et à elle deux, chez elle, elle demande à 7-8 personnes qu'elle connaisse, de leurs amis, ben écoutez, venez, il y a un prêtre qui est dans un camp, là, à l'est de Paris, il va venir raconter un peu ce qu'il fait. Et donc le père Joseph, le soir, il quitte le camp et il va chez Madame de Brancion, chez Mademoiselle Sumpt, et là il rencontre des gens à qui il dit ce qu'il est en train de vivre, les difficultés des gens, qu'on n'y arrive pas, qu'on ne peut pas rester tout seul, qu'il faut que le monde autour se rassemble, se scandalise, dise que c'est pas possible, on ne peut pas continuer de vivre comme ça aujourd'hui. Et peu à peu, il se fait des amis, parce qu'il y a des gens qui sont questionnés par ce qu'il dit, qui sont émus aussi par ce qu'il raconte, et qui se disent, en rentrant chez eux, ben oui, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Donc, ils peuvent donner un peu d'argent, ils en parlent aussi à leurs amis, à leurs enfants, et peu à peu, comme ça, il y a des gens qui viennent aider le père Joseph, et qui viennent pour aider pour les enfants, aider pour le foyer familial dont je parlais tout à l'heure, le foyer des femmes avec les machines à laver, mais il faut des animateurs pour tout ça, il faut des gens pour organiser, pour faire que tout se passe dans l'ordre et surtout dans la paix, dans la sérénité. Cette association, ce rassemblement de gens autour, que plus tard on appellera des alliés, parce qu'ils font alliance avec la population la plus pauvre, ils font alliance, ils sont d'accord avec ce courage des gens, avec l'espérance des gens, avec la volonté de s'en sortir, et ils sont conscients que ces gens, s'ils sont dans cette situation, c'est pas parce qu'ils sont paresseux, feignants, ou qu'ils veulent rien faire, mais parce que le malheur est venu, et que quand le malheur vient, eh ben, c'est comme quand on tombe dans un trou, on n'arrive plus à sortir du trou. Sauf s'il y a quelqu'un qui vient nous tirer du trou et qui tend la main. Encore faut-il qu'il y ait quelqu'un qui tende la main. Or, l'expérience montre, vous savez ça bien, aussi bien que moi, que lorsqu'on est dans le malheur, les gens sont là plus pour vous enfoncer que pour vous en sortir. Et notamment vous enfoncer en vous disant, ben, c'est bien de ta faute, tu n'avais qu'à pas faire comme ça, il fallait te conduire autrement, ou bien tu as fait le contraire de ce qu'il fallait faire. Au lieu de tendre la main et de dire, ben, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Pour le père Joseph, ce qui est important, c'est pas qu'est-ce que je vais faire pour toi pour que tu ailles mieux, c'est qu'est-ce que toi et moi on va pouvoir faire ensemble? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble? Vous vous rappelez, c'est l'histoire qui est arrivée à l'abbé Pierre. Un jour, il y a un monsieur qui vient le voir et lui dit « La vie est trop dure, trop difficile, j'en peux plus, je m'en sortirai jamais, ça vaut plus le coup de vivre, je vais me tuer, ce soir je vais me tuer. » L'abbé Pierre lui dit pas « Mais non, mon pauvre monsieur, il ne faut pas vous tuer, la vie vaut la peine d'être vécue, vous verrez, ça ira mieux demain matin, ou si ça ira mieux dans 2 mois. » Non, non, il lui dit « Écoutez, on revoir monsieur. Avant de vous tuer, j'ai besoin de vous pour aller aider quelqu'un. Monsieur a dit, bon, ben, je vais aller vous aider. Et le fait d'aider quelqu'un, eh ben, le monsieur s'est pas tué. Et c'est le monsieur lui-même qui racontait ça des dizaines d'années plus tard, disant, ben, je suis toujours là. Et au fond, c'était pas de lui donner des bonnes paroles qui a sauvé ce monsieur du suicide. C'est le fait de, mais t'es un homme, tu peux m'aider, ensemble on peut faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Bon. Ensuite, si tu veux te tuer, ça te regarde. Mais on se met pas à la place des gens, le monsieur il fait ce qu'il veut. Et en attendant, moi j'ai besoin de lui. Oui, mais dès l'instant qu'on a besoin de, on sait bien, si on a besoin de nous, on est honoré et du coup, on se sort un tout petit peu du malheur. Pas complètement, mais un tout petit peu, c'est le premier pas. Et si on a mis le premier pas sur l'escalier, alors c'est plus facile de monter la deuxième marche, la troisième marche, la quatrième marche. La marche la plus difficile, c'est la première. Et donc, c'est ça qu'avait fait l'abbé Pierre. Je dis ça parce que le père Joseph a beaucoup agi de cette manière-là, en disant, mais écoute, voilà, en disant aux gens, mais c'est bien, mais moi j'ai besoin de vous. Mais on ne sait rien faire, père Joseph. Comment vous savez rien faire? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Autrement, vous ne seriez pas vivant. Donc, bien sûr que si, vous savez faire quelque chose. Donc, ce que vous savez faire, on va le faire ensemble. Et on va le faire ensemble pour détruire la misère. Donc, vous voyez, le père Joseph se trouve là, et difficulté à faire une association, les renseignements généraux sont pas d'accord, il arrive quand même à contacter des gens à Paris qui sont des gens aisés pour avoir des soutiens je termine par cette phrase là par ce texte là je vivais l'intolérable avec les familles. C'est dans Les pauvres sont l'église à la page 152. Je vivais l'intolérable avec les familles. Vous voyez, il est là. C'est la situation des gens est impossible. Le père Joseph, il est là, il habite avec les gens, et vous voulez qu'il fasse. C'est pas un petit curé au milieu de ce camp, vous voulez qu'il fasse. Il n'est pas plus fort que les autres. Hein. Il va pas libérer de la misère 152 familles, et sans doute beaucoup plus. Hein. 252. Je vivais l'intolérable. Vous voyez, intolérable, ce qui n'est pas tolérable. Ce ne sont pas là des faits divers que je viens de vous raconter. Parce que juste avant, il a raconté des histoires. Des histoires, des anecdotes, des choses qui sont arrivées. Ce ne sont pas des faits divers. C'était l'intolérable parce que cela durait. 6 mois, ça aurait été supportable. 1 an, ça n'était déjà plus. Et au bout de 2 ans, ça aurait été soit la révolte, ou alors l'abandon et couler avec la population, se noyer, mourir de misère avec les gens. Hein? C'est-à-dire, voilà, ben, au fond, être comme eux, et puis ça sert à quoi? Qu'il y ait un mort de plus. Ça sert à rien. De cette crainte de se noyer avec les gens, de cette crainte est née une première association. C'était une manière de partager ce drame quotidien. Donc, le fait de s'associer, alors on est plusieurs et on partage le drame de tous les jours, mais on le partage. Et du coup, un drame qui est partagé, un drame dont on peut parler ensemble, c'est déjà plus le même drame que si je le garde tout seul dans mon cœur. C'est toujours dramatique, c'est toujours le malheur, mais c'est un malheur partagé. Et c'est la première marche dont je parlais tout à l'heure. Au moins, on a pu en parler. Et on a pu en parler, et tout d'un coup, le monsieur-là, il s'aperçoit que le monsieur là-bas, il vit la même chose. Et la dame qui est là, elle s'aperçoit que la dame qui est là vit la même chose. C'est pas tout à fait la même histoire, mais les gens se reconnaissent. Et du coup, on est ensemble, on a la même vie, on a le même courage, on veut aussi la même chose pour nos gamins. Et puis c'est pareil, on a la même vie, nos parents vivaient la même misère, et nos grands-parents aussi. Donc, peu à peu, les gens disent, mais oui, ben, c'est la même chose, on est les mêmes, on est un peuple, on est un peuple. De cette crainte est née une première association. c'était une manière de partager ce drame quotidien. Tout ce qui a suivi, c'est quoi ? C'est toute la naissance du mouvement et tout ce que le Père Joseph a fait dans la vie après, jusqu'à sa mort, y compris avec le pouvoir politique, avec la religion, l'Église catholique, avec les gens qu'il rencontrait chaque jour, avec les volontaires du mouvement athée des Quarts Mondes, j'en parlerai la prochaine fois, avec les alliés, avec tous les gens qu'il rencontrait. Tout ce qui a suivi est né de la même manière. De quelle manière ? De la réalité d'un trop-plein d'injustices. Il y a trop d'injustices. Vous voyez, ça déborde. Vous voyez, vous avez un bocal, il y a plein d'eau. Et puis ça déborde. Ben, quand ça déborde, ça devient intolérable. Ben, c'est l'inondation. Et à cause de cette inondation du malheur, eh bien, il est né une première association. Tout ce qui a suivi est d'ailleurs né de la même manière, de la réalité d'un trop-plein d'injustices, je continue à citer le Père Joseph, de la peur de sombrer ensemble. La peur de mourir ensemble. On se connaît bien, on s'aime bien, on est tous dans le malheur, et ben on meurt ensemble. Ben oui, et puis ça change quoi dans la vie ? Ça change rien. Tandis que si on se met ensemble pour lutter ensemble, d'abord pour en parler, se dire que on n'est pas tout seul dans ce malheur, et ben peu à peu, on change les choses, et on ne change pas les choses seulement pour moi, pour toi ou pour toi, mais on change les choses pour tous ensemble. On revient à cette misère collective et à cette dimension politique, au bon sens du terme, de l'intuition du Père Joseph. Et il termine par cette phrase, toujours dans cette page 152, « Tout est né du verbe naître, tout est né d'une vie partagée, jamais d'une théorie. » Ça veut dire que ça ne vient pas d'une idée. Le Père Joseph, il n'arrive pas à Noisy-le-Grand en disant « Moi, je vais faire ça, ça, et puis encore ça. Ah, puis j'ai une idée encore, et ça. » Alors, ces quatre choses, je vais les faire, et on va faire avancer les gens qui vivent dans la misère. Pas du tout. C'est une vie partagée. C'est-à-dire que, ah ben madame, qu'est-ce qui vous arrive ? Monsieur, qu'est-ce qui vous arrive ? Peu à peu, il se rend compte des choses. Et c'est pas une idée, c'est la vie partagée. Ben, ah ben vous vivez ça, ben, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, madame ? Ah ben voilà, on peut se réunir, on peut... Tiens, ben vous avez du mal avec votre linge. Vous savez pas comment le laver. Ben voilà, on va acheter une machine à laver, on va se débrouiller. Mais c'est pas une machine à laver pour que Madame Gaillande, elle lave son linge. C'est pour que Madame Gaillande et toutes ses voisines lavent leur linge. Parce que si c'est que pour Madame Gaillande, on va sauver Madame Gaillande et la voisine. Pourquoi Madame Gaillande plutôt que la voisine ? Non, tous ensemble. Et c'est ainsi qu'est né le mouvement athée des Quarts Mondes, mais de ça nous parlerons la prochaine fois. Voilà. Bien. Alors, ce texte-là, je vous le redonnerai la prochaine fois. Hein. Mais le texte, c'est un texte qui reprend de manière synthétique hein, tout ce que je viens de vous dire.